Laudetur Jesus Christus.
La vie chrétienne n'est pas faite de rêves ou de belles aspirations, mais d'engagements concrets afin de nous ouvrir toujours davantage à la volonté de Dieu. Nous revenons dès le début de ce journal sur la catéchèse du pape à l'Angélus. Le pape François qui a appelé à prier hier pour la paix dans le Caucase, il appelle les parties s'affrontant dans le Nagorno-Karabakh à faire des gestes de fraternité. Il les appelle au dialogue, à la négociation. Plusieurs personnes ont été tuées hier sur place. Emmanuel Macron a honte pour les dirigeants libanais lors d'une conférence de presse. Il a fustigé hier soir leur trahison. Il leur donne un peu plus d'un mois pour former un gouvernement, sans quoi, eh bien, il n'y aura pas d'aide internationale, assure-t-il. Dans ce journal, nous évoquerons les révélations du New York Times sur les déclarations d'impôts du président américain Donald Trump. Le journal affirme que le milliardaire Donald Trump aurait payé 750 euros d'impôts l'année de son arrivée au pouvoir. Et puis nous reviendrons aussi sur une incursion meurtrière dans la deuxième ville de RDC samedi avant de chercher à comprendre dans notre dossier ce qui a motivé l'ancien chef des FARC à faire son mea culpa en Colombie.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonjour à tous. Retour tout d'abord donc sur la catéchèse du pape François hier lors de l'Angélus dominical. Devant des fidèles rassemblés sous un ciel pluvieux, François commentait l'évangile du jour extrait de saint Matthieu. Il s'agissait de la parabole dite des deux fils où Jésus veut montrer que la religion ne se limite pas à une pratique extérieure. Elle demande un engagement de la personne tout entière, ce qui est souvent le fruit d'une conversion. Les précisions d'Adélaïde Patrignani.
Une fois encore, Jésus invite à dépasser les faux-semblants pour descendre en profondeur. Par cette parabole, a expliqué le pape, il s'élève contre une conception superficielle de la religion qui n'interpelle pas la conscience ni la responsabilité face au bien et au mal. Il montre aussi que l'obéissance ne consiste pas à dire oui ou non, mais à agir, à réaliser le royaume de Dieu par des engagements concrets et pas simplement de belles aspirations. À l'image du fils qui refuse d'abord de travailler pour son père puis se repent, nous sommes donc appelés à une conversion, un retour vers le Père. Dieu est patient avec nous, a souligné François. Pensons à la patience de Dieu, c'est une merveille. Il respecte notre liberté, mais attend de nous combler de sa miséricorde sans limite. La conversion est un processus parfois douloureux, a prévenu François. Mais il n'y a pas de chemin de sainteté sans quelques renoncements et sans combat spirituel. Combattre pour le bien, combattre pour ne pas tomber dans la tentation, et l'on arrive peu à peu à la joie des béatitudes. Pour progresser, la grâce de Dieu est nécessaire. La conversion est toujours une grâce, a souligné le pape. Et de conclure en laissant cette prière aux fidèles, « Seigneur, donne-moi la grâce d'être meilleur, donne-moi la grâce d'être un bon chrétien. »
Adélaïde Patrignani. Et puis à l'issue de la prière de l'Angélus, le pape a demandé aux fidèles de prier pour le retour de la paix dans le Caucase. Il a appelé au dialogue les parties prenantes à la flambée de violence d'hier. Il leur a demandé de poser des gestes de fraternité. Hier, au moins 24 personnes ont été tuées dans des combats au Nagorno-Karabakh, une région disputée depuis des décennies, Marine Oriot, par l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
Oui, Marie, et les combats se poursuivent ce matin dans la région du Haut-Karabakh, une zone disputée par les deux pays depuis 1921 et à l'origine d'une guerre en 1991. Alors les affrontements sont récurrents dans la région, mais ceux-ci sont les plus violents depuis 2016. Des chars blindés sont déployés, les deux camps ont échangé des tirs d'artillerie et de roquettes. L'Azerbaïdjan a procédé à des bombardements aériens. Au moins une quarantaine de personnes a été tuée hier, militaires et civils. Bakou revendique avoir gagné du terrain, mais Erevan dément et chacun assure avoir pris les armes pour répondre aux provocations du camp adverse. Conséquence, les deux pays ont déclaré la loi martiale. L'Arménie décrète également la mobilisation générale et un couvre-feu est mis en place dans plusieurs villes d'Azerbaïdjan. Pays voisin et allié des deux belligérants, la Russie a appelé dimanche matin à un cessez-le-feu immédiat et à des négociations. Ce sont également les mots de Washington, de la France et des Nations Unies. La Turquie promet, elle, un soutien à l'Azerbaïdjan contre l'Arménie avec, je cite, tous ses moyens.
Merci. Merci Marine Henriot. La contestation sans précédent se poursuit au Bélarus. Quelques 100 000 personnes ont à nouveau manifesté hier à Minsk. Le mouvement contre le maintien au pouvoir d'Alexandre Loukachenko ne faiblit pas malgré les arrestations. Encore 350 ce week-end. Il est clair que Loukachenko doit partir. C'est ce qu'estime le président français qui dénonce un pouvoir autoritaire qui n'arrive pas à accepter la logique de la démocratie. Emmanuel Macron s'exprimait dans le journal du dimanche à la veille de son déplacement aujourd'hui en Lituanie. C'est là que s'est réfugiée la principale opposante au régime en place au Bélarus. Sur la crise libanaise, Emmanuel Macron ne mâche pas là non plus ses mots. Lors d'une conférence de presse au ton particulièrement dur hier soir, le président français a déclaré avoir honte pour les dirigeants libanais après l'échec de la formation d'un nouveau gouvernement. Évoquant une nouvelle fois le risque de guerre civile au Liban, le chef de l'État français a cependant assuré que l'initiative de sauvetage lancée le 1er septembre à Beyrouth restait sur la table. La correspondance de Paul Ralifé.
Les dirigeants libanais sont restés silencieux après les vifs reproches que leur a adressés Emmanuel Macron, qui les a accusés de trahison collective et de ne pas avoir respecté l'engagement pris devant la France et la communauté internationale de faciliter la formation d'un gouvernement dans un délai de 15 jours. Mais les partisans des formations chiites, notamment le Hezbollah, à qui le président français a fait assumer la grande part de responsabilité dans le blocage, se sont déchaînés sur les réseaux sociaux. Le hashtag « Macron, respectez vos limites » a été partagé plus de 30 000 fois en 3 heures en réponse à Emmanuel Macron qui a dit que le Hezbollah ne doit pas se croire plus fort qu'il ne l'est. Les internautes ont rejeté ce qu'ils ont appelé les menaces et les ultimatums du chef de l'État français qui a donné un délai supplémentaire de 4 à 6 semaines aux dirigeants libanais pour qu'ils s'entendent sur la formation d'un nouveau gouvernement. Les milieux du Hezbollah ont regretté la mauvaise gestion par la France de sa propre initiative et ont souligné que le président français s'est empêtré dans les détails de la politique libanaise au détriment d'une vision plus globale et plus stratégique. Paul Khalife, Beyrouth, pour Radio Vatican.
Des révélations explosives aux États-Unis. Le New York Times vient de publier un article sur les déclarations fiscales de Donald Trump, déclarations que ce dernier refuse de publier, contrairement à ses prédécesseurs à la Maison-Blanche. Selon le journal, le milliardaire n'aurait déclaré aucun impôt sur le revenu au cours des 10 des 15 années précédant son élection. Il n'aurait ensuite payé que $750 en 2016, puis en 2017. Des révélations que Donald Trump dément, mais qui font mal 48 heures avant le premier débat qu'il opposera à son rival démocrate Joe Biden. L'équipe aux commandes de la transition se précise au Mali. L'ancien ministre des Affaires étrangères a été nommé Premier ministre hier par le président par intérim. On devrait connaître les membres du gouvernement de Mokhtar Ouane demain mardi. En tout cas, en nommant un civil, le président Bando répond aux demandes de ses voisins africains. C'était une condition sine qua non en effet pour lever les sanctions prises contre le Mali après le coup d'État du 18 août. En République démocratique du Congo, le calme est revenu à Lubumbashi. Samedi, un groupe armé sécessionniste a tenté de prendre le contrôle de la deuxième ville du pays. 16 membres du groupe ont été tués ainsi que 2 policiers et 1 soldat. Pourquoi cet assaut? À qui aurait-il profité? Selon des ONG locales, les rebelles auraient en tout cas profité d'une complicité des responsables des forces de sécurité. À Kinshasa, les précisions de Pascal Moulégois.
L'attaque des miliciens avait été lancée dès vendredi soir. Ils tentent d'abord de faire évader des prisonniers avant d'être repoussés. Et samedi à l'aube, le centre-ville est pris d'assaut. La radio publique sera même contrôlée pendant plusieurs minutes. Mais leur plan, selon les autorités, était de contrôler aussi le gouvernorat et hisser les drapeaux de la République du Katanga au centre-ville. Les miliciens étaient environ 300. Selon Philbert Kunda, le ministre provincial de la Sécurité au Haut-Katanga, les forces loyalistes ont été obligées de répliquer avec force, ce qui justifie le décompte macabre des 16 morts parmi les sécessionnistes. Ils ne sont pas leur premier coup dans cette région riche en cuivre et cobalt. En avril dernier, ils avaient attaqué simultanément 3 villes et avaient réussi à faire évader leur leader, Gédéon Kyungu, d'une villa où il était assigné depuis 2016 par les autorités. En 2015, ces miliciens avaient hissé les drapeaux de la République du Katanga à Lubumbashi avant de se retrancher dans une base de la mission de l'ONU à RDC, la MONUSCO. Pascal Moulégois, Kinshasa, Radio Vatican.
En Algérie, plusieurs dizaines d'avocats entament une grève d'une semaine ce lundi pour réclamer une justice indépendante et le respect des droits de la défense. Soulignons qu'hier, la justice algérienne a condamné plusieurs figures du Irak, le mouvement de protestation populaire contre le régime de Bouteflika. En Belgique, les différents partis tentent actuellement de former un gouvernement fédéral de coalition. À cette occasion, les évêques ont adressé un message à la classe politique, les exhortant à se préoccuper des plus fragiles, à prendre en priorité des décisions qui donnent sens à la vie et qui, dans le respect des convictions de chacun, permettront de vivre à tous autrement. Les Suisses ont dit non ce week-end à une large majorité à une limitation de l'immigration des ressortissants de l'Union européenne au grand soulagement des milieux économiques et de Bruxelles. Ils ont par ailleurs voté hier en faveur d'un congé paternité de 2 semaines quand les jeunes pères n'avaient jusqu'ici droit qu'à 1 ou 2 jours. En Colombie, le 15 septembre dernier, Rodrigo Londoño, alias Timoshenko, c'est l'ancien chef de la guérilla des FARC. Il a reconnu les atrocités longtemps menées par ses combattants, estimant que les enlèvements avaient été une grave erreur dont nous ne pouvons que nous repentir. L'ancien groupe paramilitaire fondé en 1964 a par ailleurs reconnu dans un communiqué que les enlèvements ont blessé à mort la légitimité et la crédibilité de leur soulèvement armé contre l'État colombien. Ils ont exprimé leur regret pour la douleur, les humiliations infligées aux victimes. Ancienne guérilla la plus puissante du pays, les FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie, ont pratiqué pas moins de 20 000 enlèvements en plus de 40 ans de guérilla. Leur démarche récente de repentance a été largement saluée dans le pays. Ce discours de vérité des FARC est un pas en avant dans le processus de réconciliation colombien, même s'il reste beaucoup à faire, nous explique ce matin Frédéric Massé, directeur du Centre de recherche et de projets spéciaux de l'Université Externado de Colombie.
C'est une prise de position, c'est une annonce importante dans la mesure où c'est la première fois depuis 50 ans, on va dire depuis le début du conflit, que les FARC reconnaissent, utilisent le mot enlèvement. Avant, il y avait des contorsions sémantiques pour dire que c'était des rétentions illégales, mais on ne parlait jamais d'otages. Le mot otage et enlèvement n'était pas prononcé, donc c'est la première fois qu'elles reconnaissent ouvertement les faits et qu'elles demandent pardon pour ces faits. Donc c'est effectivement un pas important. C'est une annonce qui fait suite à la discussion d'Ingrid Betancourt face à la Commission de la Vérité. Et c'est une annonce qui, en partie, répond à des pressions, des demandes insistantes de la société colombienne envers les FARC pour davantage de vérité. Parce que il y a différents cas, en fait. On a un petit peu des confessions à géométrie variable. Il y a le cas des enlèvements, il y a le cas du recrutement forcé, il y a le cas des violations sexuelles. Et donc, depuis un mois, depuis les premières comparaisons des dirigeants des FARC vis-à-vis de la justice spéciale de paix, la REP, comme on dit en espagnol, et aussi dans le cas de la Commission de la vérité, il y a eu un certain nombre de témoignages et de frustrations parce que les FARC admettent à demi-mot un certain nombre de faits.
Est-ce que vous pensez que cette confession, justement, est un pas important vers une réconciliation, un progrès encore sur ce long chemin qu'est la réconciliation nationale?
Alors c'est important bien sûr, insuffisant, puisque comme je vous le signalais, il y a d'autres sujets qui sont épineux, notamment les recrutements de mineurs, où on a eu des confessions ou des témoignages différents, divergents, selon les différents dirigeants des FARC. Et même Timoshenko, le leader des FARC, qui devant la REP ne reconnaissait pas l'existence de recrutement forcé, a ensuite admis qu'il y avait eu effectivement des pratiques et que la possibilité existait qu'il y ait eu effectivement des recrutements forcés. Donc de la part même des dirigeants, on a, en l'espace de quelques jours, de quelques semaines, on a une certaine confession et ça va dans le bon sens.
Pour les familles des victimes, des personnes qui ont été enlevées, combien est-ce important dans ce processus de réconciliation?
Alors je crois que, comme l'a dit elle-même Ingrid, c'est un point très important au niveau du travail psychologique des victimes, puisque la première chose est de reconnaître les faits. On ne peut pas demander pardon sur quelque chose qui n'est pas reconnu. Donc je crois que c'est un point très important. En tout cas, de la part d'un certain nombre d'otages. Je n'ai pas entendu d'autres réactions de nombreux autres otages, puisqu'il y a aussi des cas où l'issue, on va dire, des enlèvements s'est mal terminée. Il y a aussi d'autres éléments, c'est-à-dire que l'enlèvement lui-même et la prise d'otage, le fait de reconnaître une certaine vérité, est un premier pas, mais il faut aussi savoir admettre les conditions dans lesquelles ont été retenues ces personnes, pourquoi ces personnes ont été enlevées, etc. etc. Je crois qu'il y a encore un certain nombre de travail à faire à ce niveau-là.
Ce qui est très frappant, c'est qu'au-delà de l'aspect militaire, sécuritaire et du combat de la guerre civile, on sent vraiment qu'il y a un devoir de libération de la parole. Quand vous parlez de violences sexuelles ou de recrutement des enfants, on sent bien que ce sont des nœuds encore qui n'ont pas été dénoués.
Tout à fait. Le processus de catharsis commence à peine, sachant d'autre part qu'il y a une utilisation, il y a une politisation de ces thèmes. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un contexte de polarisation assez forte en Colombie, et malheureusement, tous les témoignages, dans un sens ou dans un autre, sont souvent utilisés par les différentes parties pour jeter l'huile sur le feu. À l'approche aussi, finalement, on est déjà pratiquement rentré en campagne présidentielle, même si c'est en 2022. Il y a déjà des débats, il y a déjà des manœuvres, et donc peut-être que ce climat ou ce contexte ne favorise pas forcément la révélation d'un certain nombre de vérités sur le conflit.
Interrogé par Olivier Bonnel, Frédéric Massé était ce matin l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h pour faire un nouveau point de l'actualité internationale.